Merci. Bonjour. Donc, et ça s'arrête là, ce que je sais dire. Je vais parler en français et Philippe va traduire en italien.
Visto che il professore vi saluta e vi dice che sarà, cioè, sarà mio il compito di tradurre, cercherò di tradurre nel modo più appropriato, scusatemi se cercheremo di gestirla nel miglior modo possibile. Vi lascio la parola, il titolo del suo intervento è Zone umanitarie e controllo dei flussi migratori, qualcosa di nuovo a proposito della creazione di campi, di accampamenti nel mondo.
Alors, je vais essayer de répondre aussi à la question qui est posée sur qui pour moi signifie de s'interroger sur l'évolution dans le temps d'une figure qui est celle de l'exilé et qui a connu une transformation importante au cours des dernières années. C'est de ça dont je voudrais d'abord parler.
Allora, cercherò di focalizzare l'intervento nel contesto di quello che è l'oggetto di questo incontro sulla dimensione dell'esilio e anche storica dell'esilio, cercando di contestualizzarla.
Alors, depuis longtemps, nous attribuons à l'exil une dimension spirituelle très forte. Sur le plan intellectuel ou artistique, de grandes figures ont émergé de cette situation de déracinement et on connaît même une vraie littérature de l'exil. On en connaît certaines figures comme Édouard Saïd ou de la philosophie de l'exil comme Hannah Arendt par exemple.
Della questione dell'esilio, la questione dell'esilio è stata valutata e analizzata in ambito, da un punto di vista spirituale, da un punto di vista intellettuale e anche artistico. E Michel fa riferimento ad alcune figure che sono emerse di questa dimensione dello sradicamento e lui fa riferimento in particolare per esempio a Edouard Said o a Hannah Arendt, che sono delle persone che hanno effettivamente incarnato e tradotto questa dimensione dell'esilio.
Il y a même parmi les grands exilés, on peut dire les grands exilés, des intellectuels ou des poètes, des gens qui ont réfléchi eux-mêmes sur l'exil. Je pense au sociologue Alfred Schutz, exilé autrichien aux États-Unis, et qui a eu toute une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'hybridation culturelle du migrant qui passe d'un modèle culturel à un autre, par exemple.
Cita anche Alfred Schultz, sociologo e lui stesso esiliato, che cerca di tradurre questa esperienza dell'esilio.
De l'hybridation culturelle, hein, du mélange des modèles culturels.
Dell'idea di ibridazione culturale, di métissage, come proprio il
Mon hypothèse, c'est que ça, aujourd'hui, ça n'est plus possible.
L'hypothèse de Michel Ager est que questo attualmente oggi non sia più possibile.
Qu'aujourd'hui, on est dans une situation historique très différente, où les exilés n'ont plus de lieu d'arrivée à partir duquel ils peuvent faire le récit de leur exil.
Che attualmente i migranti, quindi chi vive questa esperienza dell'esilio, profughi, non hanno più attualmente un luogo di arrivo nel quale o dal quale possono poi fare il racconto, quindi raccontare la loro esperienza.
D'une certaine façon, on peut dire que la figure de l'exilé, la figure honorable de l'exilé, ne trouve plus comment se réaliser parce qu'il n'y a plus de lieu qui soit reconnu comme étant la place de l'exilé, si ce n'est maintenant le lieu du camp, de la mise à l'écart ou du mouvement de migration qui est entravé, qui est arrêté à la frontière.
Quindi la figura onorevole dell'esilé, quindi del profugo, attualmente non trova più uno spazio in cui realizzarsi, in cui manifestarsi, se non nella forma del campo, dell'allontanamento, quello che possiamo chiamare apartheid, comunque dell'isolamento.
Je référais à Édouard Saïd. Bon, par exemple, Édouard Saïd, toute sa réflexion sur l'exil consiste à dire que on est passé d'une dimension spirituelle de l'exilé à une dimension institutionnelle du réfugié. Le réfugié dépend de politiques qui reconnaissent son statut de demandeur d'un asile, d'une assistance, etc., jusqu'à l'humiliation devant cette demande de statut institutionnel.
Si fa riferimento a Edouard Said che spiega come la figura del rifugiato, che la figura spirituale del rifugiato sia stata del profugo, diciamo, sia stata trasformata in una figura del rifugiato che è una figura istituzionale, istituzionalizzata e che è quella di un individuo che è riconosciuto solo in quanto richiedente assistenza, richiedente quindi una situazione comunque di umiliazione per cui deve chiedere, deve ricevere, deve mettersi in una situazione di dipendenza sostanzialmente.
Bon alors, que s'est-il passé? On peut dire d'une manière très schématique et résumée, et en plus là, parce qu'on va essayer d'aller vite, qu'une bifurcation a eu lieu dans l'histoire européenne, hein, qui, moins au XXe siècle, a été le haut lieu de l'histoire mondiale. Et cette bifurcation, elle se situe, pour ce qui nous intéresse, entre le moment de la Convention de Genève, du droit d'asile, de la création du statut de réfugié, c'est-à-dire jusqu'aux années 50, et puis le basculement qui s'est opéré avec la fin de la guerre froide, et tout d'un coup, l'inutilité du point de vue des politiques européennes, de la Convention de Genève, du statut de réfugié, et tout ce que ça pouvait représenter dans le cadre de la guerre froide, dans le cadre de la période antérieure.
Dice, parla della biforcazione, quindi del cambiamento di registro e di logica che si è verificato in Europa nel corso del XX secolo e che ha come punto, diciamo, di rottura la Convenzione di Genova, tutto quello che è stato il rapporto istituzionale alla figura del rifugiato fino alla Convenzione di Ginevra e poi con la fine della Guerra Fredda, la trasformazione a livello anche delle politiche europee del rapporto con la figura del rifugiato.
D'un côté l'Ouest, l'Occident, qui voulait représenter la posture du monde libre et qui devenait donc le lieu d'accueil de tous ceux qui étaient renvoyés par le bloc soviétique ou qui parvenaient à s'en échapper. Et donc à ce moment-là, ce monde occidental, Europe et les États-Unis, se sont fait les porteurs des idéaux universalistes.
Con appunto la guerra fredda, la circolazione dei rifugiati andava dall'est verso l'occidente che si è fatto carico, che ha cominciato ad interpretarsi come protagonista degli ideali universalisti.
Le monde libre, hein, et le monde de l'universalisme.
Presentandosi come il mondo libero dell'universalismo.
Et tout d'un coup, donc avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, c'est comme si cette grande rhétorique universaliste devenait inutile et donc commençait à disparaître.
Con la caduta del muro di Berlino, questa logica sembra essere diventata inutile e sparire.
Progressivement, on a vu que l'asile et plus généralement tout ce qui concerne la mobilité internationale sud-nord, voire sud-sud, a été traité comme un poids. On a commencé à entendre parler de toute la misère du monde qu'on ne pouvait pas accueillir, etc., etc. Donc donnant à ce moment-là des migrants, des réfugiés, l'image de personnes illégales, clandestines, dangereuses, souillées même d'une manière générale, qui amenaient quelque chose qui devenait quelque chose de vraiment indésirable.
E a questo punto la relazione con la figura del profugo cambia radicalmente, e anche nelle relazioni nord-sud, ma anche nelle relazioni sud-sud, la figura del profugo diventa qualcosa di peso da gestire, qualcosa da organizzare, da controllare, e quindi si comincia a produrre questa la criminalizzazione sostanzialmente del profugo.
E par exemple sur le plan, comment ça s'est traduit sur le plan politique et institutionnel? Eh bien, alors qu'on avait en gros au début des années 90, 85% d'acceptation des demandes d'asile en Europe, on a au milieu des années 2000, 85% de refus des demandes d'asile en Europe.
Una cifra, per fare un esempio, le cifre dell'accettazione delle domande di asilo all'inizio degli anni 90 era dell'85%, mentre a metà degli anni 2000 l'85% dei rifiuti, domande di accoglienza e di asilo.
Bon, donc on est, et c'est un point qui pourrait être bien plus développé, mais on est passé avec ce changement de siècle, hein, qui est à la chute du mur de Berlin aux années 90, on est passé d'un monde qui se disait libre, monde libre et universaliste, à une conception de plus en plus enfermée et excluante, même si on continue à utiliser des termes comme société démocratique, droit, etc. Le périmètre se réduit de plus en plus.
Dall'idea di un mondo libero e universalista si è passati ad un mondo che, anche se continua a fare riferimento a questi valori utilizzandoli a livello retorico, si manifesta come un orizzonte sempre più chiuso, renfermé, quindi isolato.
C'est ce que le philosophe Alain Brossat appelle la démocratie immunitaire, c'est-à-dire autoprotégée, est de plus en plus réduite tout en continuant à parler de démocratie.
Ok, quello che Alain Brossard definisce una democrazia immunitaria, quindi che si autoprotegge, quindi continua ad utilizzare gli stessi termini ma da un punto di vista di autoprotezione.
Alors, ne plus appliquer la Convention de Genève parce que ça ne fait plus sens aujourd'hui, on est bien obligé de constater donc qu'il faut relativiser l'universalisme. Et les grandes déclarations universalistes ne sont là, non pas pour dire ce qu'est la réalité, mais pour la transformer, la guider, l'orienter dans un sens ou dans un autre.
Quindi, di fatto, constatando il non rispetto della Convenzione di Ginevra, ad esempio, si vede come le convenzioni internazionali siano relative e sia necessario comunque ripensarle e problematizzarle.
Dans cette même histoire, dans cette même période ou historicité, un autre changement a eu lieu qui concerne le statut de l'autre, le statut de l'étranger. Alors que d'un côté, bon, une homogénéisation culturelle du monde semble s'imposer, qui fait qu'on parle d'appartenir tous à un monde commun, home, etc. On ne sait plus très bien qui est l'étranger, sinon celui qui est tenu à l'écart, qui est montré comme étant ailleurs, dans un autre lieu.
In questo contesto la figura dello, anche la figura dello straniero si modifica e diventa diventa esatto, cioè, di fronte all'omogenizzazione culturale del mondo lo straniero oggi diventa quello che viene da un altrove e che, voilà. E che viene messo altrove, che viene tenuto altrove, voilà. Viene altrove e quindi messo all'écart, quindi marginalizzato.
C'est-à-dire l'évidence de l'étranger, elle est plus culturelle. On est déjà dans une phase post-culturaliste. L'évidence de l'étranger, elle est naturalisée par des lieux hétérotopique, c'est des lieux de l'étranger, les camps, les campements, les zones d'attente, les zones de transit, etc.
Quindi l'evidenza dello straniero non è più culturale, siamo a un livello post-culturale in cui lo straniero viene definito in base ai luoghi e a delle situazioni nelle quali viene obbligato a trovarsi, quindi quella del campo, quella della marginalizzazione.
Voilà, c'est pour ça que j'ai fait tout un travail dans un petit essai qui s'appelle Le couloir des exilés, qui consiste à s'interroger sur aujourd'hui. Quand on veut s'interroger sur qui est l'étranger, il faut s'interroger sur où est l'étranger. Quel est le lieu, quelle est la topographie de l'étranger.
Per questa ragione, lui ha in un saggio che si chiama Les couloirs des exilés, quindi diciamo il corridoio degli esiliati, dice che per capire questa situazione è necessario interrogarsi su dove si trova lo straniero, in che condizione è obbligato a vivere e quindi in un certo senso a seguirlo lungo le sue di queste traiettorie.
Dans les différents lieux où j'ai pu enquêter, différentes sortes de camps, de zones, etc., où se retrouvent des étrangers, on voit que ce qu'on fabrique, ce sont de nouvelles sortes d'extraterritorialité.
Nelle sue etnografie, nelle varie ricerche che lui ha svolto, quello che si può constatare è che effettivamente si fabbrica delle tipologie di extraterritorialità.
D'une certaine façon, on peut dire que l'extraterritorialité, c'est le lieu exact de l'étranger. C'est le lieu où on est étranger, quelle que soit finalement sa véritable nationalité ou sa culture. On l'a vu, par exemple, en France, à propos des exclusions de campements de Roms, où les juges se sont rendus compte au moment de prononcer des expulsions que plus de la moitié des Roms étaient de nationalité française et donc n'étaient pas expulsables. Mais ce qui comptait là, c'est qu'ils étaient dans une topographie de l'étranger et donc comme s'il faut expulser un élément, un appendice d'un corps qui serait un corps national parfait, etc.
Et quindi in questa nuova topografia dello straniero, l'extraterritorialità è il luogo esatto che definisce appunto lo straniero, e al di là della sua nazionalità e della sua provenienza, è la situazione in cui si trova che lo determina. E in questo senso Michel fa riferimento al caso dei Rom in Francia, per cui i giudici sono accorti solo in un secondo momento che le persone che stavano sostanzialmente perseguitando, passatemi il termine, erano effettivamente di nazionalità francese. Quindi si poneva il problema, diciamo, lo scarto tra la nazionalità dello straniero e la sua posizione.
On va prendre par exemple très vite deux lois françaises récentes votées en 2003 et en 2010.
Facciamo riferimento alle leggi francesi votate nel 2003 e nel 2010.
Qui ont même institué cette extraterritorialité en déclarant hors du territoire tout lieu qui serait amené à traverser un étranger en situation irrégulière. Quand il pose le pied sur le sol français.
Okay. Diciamo che fa riferimento soprattutto a queste leggi che hanno istituito come fuori dal territorio ogni luogo che uno straniero in situazione irregolare attraversa. E quindi dal momento in cui questa persona mette il piede sul suolo francese.
Ou bien, si doit circuler pour des raisons sanitaires ou administratives, par exemple. Cette espèce de caricature de la loi en 2003 qu'on a appelée la loi Sarkozy, lorsqu'un étranger en situation régulière doit se rendre depuis la zone d'attente jusqu'à un lieu dans Paris, par exemple un hôpital ou une ambassade, une loi décrète que le lieu où il se déplace est une zone d'attente.
C'è questa creazione, secondo una legge del 2003 che è stata chiamata legge Sarkozy, che stabilisce che ogni spazio, ogni luogo in cui lo straniero si muove dalla zona d'attente dove viene detenuto in quanto persona in situazione irregolare ad altrove, quindi che può essere l'ospedale, può essere i locali amministrativi, ogni zona in cui questa persona si sposta diventa una zona extraterritoriale.
Et de la même façon, dans la loi de 2010, il a été décrété que tout lieu sur lequel un étranger en situation régulière, irrégulière, posait les pieds était considéré comme n'étant pas du sol national, mais étant étant une zone d'attente, donc extraterritoriale.
Et quindi anche la stessa legge del 2010 riprende un po' questa questione e stabilisce che ogni luogo in cui lo straniero in situazione irregolare mette piede diventa un luogo che è, diciamo, sottratto alla territorialità dello Stato francese, diventa appunto una zona una zona extraterritoriale.
Donc en Europe comme en Australie où des îles sont transformées en centres de rétention pour étrangers.
E quindi come in Europa, come in Australia, dove ad esempio delle isole sono state trasformate in zone di residenza, di per gli stranieri.
Il s'agit de contourner par l'extraterritorialité le droit international sur l'asile, qui stipule que lorsqu'une personne met le pied sur le territoire national et fait une demande d'asile, elle ne peut pas être expulsée tant que sa demande n'a pas été examinée et qu'elle n'a pas épuisé tous ses droits.
Quindi si tratta di un metodo per per deviare le regole internazionali che prevedono che una persona straniera sia comunque presa in carico e non possa essere espulsa fino a quando non è stata valutata la sua posizione, eccetera, trasformando appunto questi spazi in spazi extraterritoriali, sottratti a questo tipo di legge.
Donc là on voit bien qu'il y a des contours pour ou des détours pour ne pas appliquer certaines règles de relevant de cet universalisme des droits, alors même qu'elles ne sont pas appliquées, mais qu'elles sont toujours maintenues. On sait qu'il y a eu toute une discussion, peut-être que ça sera abordé, pour savoir, par exemple, entre les gouvernements européens, s'il fallait ou non amender, transformer la Convention de Genève, et il a été décidé de la garder telle quelle, parce que c'était trop compliqué de l'amender, mais de ne jamais l'appliquer en fait.
Quindi si tratta di dei trucchi sostanzialmente che vengono creati per mantenere una retorica di universalista eccetera e allo stesso tempo poter operare in termini di controllo e di appunto marginalizzazione dello straniero e si fa riferimento per esempio all'ipotesi di modificare la Convenzione di Ginevra che è stata valutata inopportuna per la difficoltà di intervenire su questo testo, si è preferito dire la Convenzione rimane lì, però inventiamoci qualcosa che ci permette appunto di deviare, di operare al di là e al di fuori di questo tipo di trattato.
On voit se créer comme zone d'attente n'importe quelle partie des territoires nationaux, un chemin, une plage, une route, n'importe quel endroit, n'importe quel espace qui devient un lieu de l'étranger littéralement, l'espace de l'étranger littéralement.
Quindi si manifestano sul territorio delle zone, delle zone d'attente, quindi delle zone extraterritoriali, possono essere una spiaggia, una piazza, qualsiasi luogo che nel momento in cui viene toccata da una persona in situazione irregolare viene sottratta appunto dalla sua territorialità.
Donc ces lieux que j'ai appelés des hors-lieux, en dehors de tous les lieux, ils sont c'est dans des lieux où est confiné l'étranger et où on a à la fois de l'exception sur le plan politique et juridique, de l'extraterritorialité sur le plan sur le plan spatial et de l'exclusion sur le plan social d'une façon trois ex qui signifie quelque chose qui est dehors. On est dans un dehors de ce qui est l'ordre normal des choses, qui est un ordre national.
Questi luoghi che lui definisce degli fuori luoghi, possiamo dire, divengono degli spazi di eccezione dove l'individuo esiste in quanto straniero e è sottoposto a dei regimi di eccezione, di extraterritorialità e di esclusione. Quindi dice tre volte come messi fuori territorialmente, messi fuori a livello sociale e a livello legale.
Donc dans mes enquêtes, ce que j'ai fait, c'est à la fois converger avec un certain nombre de philosophes et sociologues qui parlent de population surnuméraire, de paria ou comme Anna Arendt, d'humanité superflue, mais en plus en constatant, en observant et en décrivant que cela correspond à un certain encampement du monde, encampement d'une partie de la population dans le monde, et que ça n'est pas que à une échelle nationale ou régionale, mais à une échelle mondiale que ça se passe.
Lui, facendo riferimento ad autori che hanno lavorato su queste tematiche, come Bauman, come Anna Arendt, e quindi che parlano di popolazioni che sono di sovrannumero di popolazione, di paria, quindi della superfluità.
Di umanità in eccesso.
Di umanità in eccesso, ok, di umanità in eccesso. Lui constata che c'è la creazione a livello non solo regionale e nazionale, ma a livello globale di una sorta di spazi di encampement, giustamente, quindi di creazione di campi, di luoghi che sono al di fuori.
Alors, je vais en donner un très très rapide paysage que j'appelle le paysage global des camps, à l'échelle mondiale.
Allora, per un paesaggio dei campi sulla scena globale.
Quelques chiffres très très vite, les chiffres sont insuffisants, très approximatifs, mais on en a besoin pour relativiser ce qui se passe en France, en Italie, en Espagne ou ailleurs, par rapport à un mouvement qui existe à l'échelle mondiale.
Allora, vuole dare qualche cifra che comunque dice significativa perché ci permette di relativizzare, di capire quello che succede in Italia, in Francia, in relazione a quello che succede nel mondo, insomma, nello scenario globale.
Alors d'abord, il y a 12 millions de réfugiés qui sont reconnus par le HCR, c'est-à-dire des gens qui ont une carte HCR, Programme Alimentaire Mondial.
12 milioni di persone che hanno una carta che li riconosce come una carta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Il y a les 4 milioni e demi di réfugiés palestiniens.
4 milioni e mezzo di rifugiati palestinesi.
Dont 1 milione e demi sont dans les camps.
Di cui 1 milione e mezzo nei campi.
Il faut ajouter à cela la catégorie des déplacés internes, bisogna, IDPs, dans le langage des Nations Unies.
Quindi bisogna aggiungere la categoria delle persone déplacées internes, in italiano, sfollati interni, sfollati interni.
C'est des gens qui ont quitté leur lieu de résidence, mais n'ont pas traversé la frontière.
Quindi persone che hanno lasciato il loro luogo di residenza, ma non hanno attraversato la frontiera.
Des pays qu'on ne soupçonne pas forcément d'être des pays de très nombreux déplacés sont par exemple l'Afghanistan, l'Irak, le Soudan et en particulier au Darfour.
Lui cita i casi di paesi come l'Afghanistan, l'Iraq, il Sudan e il Darfur.
Où là, il y a des centaines et des centaines de camps de déplacés dans ces pays, en plus des 300 camps de réfugiés qui existent dans le monde.
All'interno di questi paesi non sappiamo, non conosciamo il numero, ma è elevatissimo di persone che sono appunto dei déplacés interni, quindi degli sfollati interni a questo paese, oltre a quelli che poi lasciano effettivamente il paese.
Donc on estime aujourd'hui dans les comptes du HCR qu'il y aurait environ 30 millions de personnes considérées comme déplacées internes.
Et quindi les chiffres de l'Alto Commissariato parlano di circa 30 milioni di persone di sfollati interni.
Il faut aussi parler, mais ça serait un peu complexe, d'une autre catégorie que le HCR aussi recommence à découvrir, qui sont les apatrides, qui estime à 12 millions le nombre de personnes qui n'ont aucune relation avec aucun État.
C'è un'altra categoria che è quella degli apatridi, stimata sui 12 milioni nel mondo, che l'Alto Commissariato per i Rifugiati comincia adesso a riprendere in considerazione.
Bien sûr, il faudrait parler des catastrophes naturelles que l'ONU a évalué en 2008 comme le nombre de déplacés par des catastrophes naturelles à 20 millions pour l'année 2008, par exemple.
E quindi un'altra categoria da aggiungere è quella delle persone, diciamo degli sfollati per cause per catastrofi naturali, che era stimata nel 2008 a 20 milioni di persone.
Etc., etc. Et donc on arrive au minimum aujourd'hui dans le monde à 75 millions de personnes en déplacement forcé.
Quindi calcolando, diciamo, sommando queste cifre, arriviamo a 75 milioni di persone sfollate, déplacées forcées.
Contraint. Sachant que les trois quarts de ces déplacements se font dans les pays du sud eux-mêmes, avant d'être vers le sud-nord.
Considerando che i tre quarti di questi movimenti di popolazione si fanno in paesi del sud, prima di interessare paesi come in Europa.
Alors, j'ai développé beaucoup d'analyses et puis je vais pas les redévelopper ici sur le fait que cet encampement du monde était associé, c'était un contrôle des flux de population qui était associé avec un autre phénomène, donc celui de l'encampement, et avec un autre phénomène qui est celui de l'intervention humanitaire. Et donc j'ai appelé ça le gouvernement humanitaire, c'est-à-dire un gouvernement humanitaire où on maintient en vie, à minima, des populations indésirables qui sont tenues à l'écart dans des espaces relativement fermés.
Questa idea di creazione di campi è stata messa in relazione a quella del governo passa come più come gestione, quindi una cosa molto più reale. C'è stato un piccolo malinteso, molto più reale, legata all'intervento reale di associazioni umanitarie, eccetera, che intervengono realmente e che incidono realmente sulla situazione di queste persone.
E de fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est que précisément ce sont des gouvernements sans citoyens, et c'est là où ça rend difficile d'utiliser les termes, parce que on voudrait pas les utiliser, et pourtant toutes les organisations qui sont là ont bien conscience de gouverner les gens qui sont là, les espaces, la vie, et en même temps, c'est un gouvernement sans citoyens, c'est-à-dire que il n'y a pas de politique prévue dans ces espaces-là.
E giustamente si tratta di una gestione che di un governo senza cittadini, cioè queste associazioni, queste persone che intervengono esplicitamente, direttamente sulla realtà di queste persone, determinano e comunque influenzano luoghi, spazi, vita delle persone, sono coscienti di operare delle diciamo un governo, che anche se è al di fuori della logica del governo di cittadini.
C'est pour ça que pour moi c'est quelque chose qui est en perspective, qui est en train de se faire, qui pose beaucoup de questions, par exemple sur une mise en échec quoi de la solidarité internationale à travers le mouvement des ONG humanitaires, etc. Et qui est aussi en devenir quelque chose qui est une forme de gouvernement des indésirables en dehors de ce monde qui est de plus en plus réduit sur des sociétés privilégiées très exclusives.
Quindi questa evoluzione della situazione ci porta a valutare in modo diverso quella che era un'operazione di solidarietà internazionale che si trasformano sempre di più in gestione degli indesiderabili e che di fatto obbliga a rivedere delle categorie e a...
discuter cette intervention, discuter le pourquoi de cette intervention humanitaire, de cet engagement humanitaire.
Et à problématiser l'intervention humanitaire, ce type de opération.
Plutôt que de développer tout ça, l'actualité me permet de conclure très vite et de manière encore plus politique que ce que je pensais le faire.
Quindi facendo riferimento all'attualità e cambiando un po' l'idea di conclusione che aveva previsto.
Vendredi 11 mars, le président français Nicolas Sarkozy.
Venerdì 11 marzo, il presidente Nicolas Sarkozy
a affirmé à Bruxelles qu'il voulait la création de zones humanitaires en Afrique du Nord pour gérer les flux migratoires consécutifs aux révoltes arabes.
Allora, ha dichiarato che lui auspicava la creazione di zone umanitarie in Africa del Nord per gestire i flussi migratori in conseguenza delle rivolte arabe nel mondo arabo.
Pour Sarkozy, ces zones pourraient dans un premier temps être installées en Tunisie et en Égypte, mais nous souhaiterions, dit-il, qu'elles le soient rapidement en Libye pour traiter la question des dizaines de millions de personnes déplacées.
Quindi secondo Sarkozy queste zone potrebbero essere in un primo momento installate in Tunisia e in Egitto, ma auspichiamo, dice sempre Sarkozy, che esse siano rapidamente create anche in Libia per trattare la questione delle decine di migliaia di persone deplacées, quindi sfollate.
Encore, selon lui, ces zones devraient être gérées par les Nations Unies.
Queste zone dovrebbero gestite dalle Nazioni Unite.
Et il dit, c'est la seule façon de gérer tranquillement la question des flux migratoires.
E dice sempre Sarkozy che è il solo modo di gestire tranquillamente la questione dei flussi migratori.
Et là, je me dis, il est exactement dans mon analyse sur ce gouvernement humanitaire qui est en train de se construire.
E tutto questo rientra nella sua definizione di questo governo, di gestione umanitaria che si sta materializzando, che sta creando.
Je suis très inquiet parce que je me dis qu'il a peut-être lu ce gros livre que j'ai fait qui s'appelle Comment marche le gouvernement humanitaire.
È un po' preoccupato perché pensa che Sarkozy abbia letto il suo libro che si intitola Come funziona il governo umanitario.
Parce que justement il dit qu'il faut organiser des zones humanitaires décentes avec des écoles pour les enfants et des moyens sanitaires de manière à maîtriser cela.
Perché dice, a un certo punto, Sarkozy dice che bisogna organizzare delle zone umanitarie decenti, con delle scuole per bambini, con degli strumenti sanitari, in maniera da gestire tutto questo.
Donc on a là le paysage des camps de réfugiés, avec les organisations qui sont chargées de l'école et des enfants, comme Jesuit Refugee Service, d'autres ONG qui sont chargées des questions sanitaires comme Médecins du Monde, MSF, etc., etc. Et donc, d'une certaine façon, ma conclusion est d'alerter quoi sur la réalité et la proximité qu'on est aujourd'hui avec ces projections-là, qui est que effectivement, ce ne sont pas les lubies de chercheurs ou de militants critiques, etc. Ce sont des projets d'hommes politiques européens.
Et quindi lui dice è necessario fare attenzione perché queste questioni come il governo umanitario, la gestione umanitaria non sono delle proiezioni di ricercatori e di persone che si arrovellano il cervello per cercare di leggere queste cose, ma sono invece proprio dei progetti politici che sono in evoluzione, che sono presenti, che sono reali nei piani appunto delle nazioni europee in particolare.